La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous avez suivi pour nous la soirée électorale qui vient de s'achever au Brésil sur une très large victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro au premier tour de l'élection présidentielle.
Oui, 47% de voix récoltées au premier tour contre 29% à Fernando Haddad du Parti des Travailleurs qu'il va affronter au second tour le 28 octobre. Cette victoire de Bolsonaro pour la Folha de São Paulo, c'est un raz-de-marée électoral que même les sondages qu'il donnait pourtant grand favori n'avaient pas anticipé. Toujours plus fier, provocateur et critique du système démocratique, l'homme fort de l'extrême droite brésilienne déclarait hier soir que s'il n'y avait pas eu des erreurs dans le vote électronique, eh bien, il l'aurait emporté dès le premier tour. Mais attention, la bataille du second tour, elle, est loin d'être gagnée d'avance, prédit Myriam Leitao dans les pages analyse d'O Globo. Celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à mener le virage vers le centre le plus convaincant, dit-elle. En la matière, ajoute Bruno Bogossian pour la Folha de São Paulo, c'est bien Fernando Haddad qui va avoir le plus de concessions à faire. Le candidat de gauche du Parti des Travailleurs a d'ailleurs, dès l'annonce des résultats, appelé à une union de tous les démocrates brésiliens derrière lui. Le second tour, c'est une toute autre élection qui commence, selon Merval Pereira, toujours dans les pages d'O Globo. Mais les compteurs ne sont pas remis pour autant à zéro, tant perd son confrère Ascanio Selemé. Le PT sort du scrutin d'hier essoré. Les électeurs brésiliens lui ont présenté la facture des scandales de corruption accumulés par le grand parti de gauche. Le Parti des Travailleurs peut donc espérer l'emporter dans 2 semaines, mais pour cela, il va devoir faire le mea culpa des années Lula et Dilma.
Et c'est peu dire, Camille, que cette élection brésilienne intéresse la presse internationale.
Et des journaux du monde entier qui ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait que le Brésil serait la 3e ou la 4e démocratie de la planète en population, mais en tout cas qui scrute, c'est vrai, de très près les résultats du scrutin. On ne s'étonnera pas vraiment que le Washington Post voit en Bolsonaro avant tout un inquiétant avatar de Donald Trump. Sa campagne a clairement rappelé celle des élections présidentielles américaines en 2016 avec un candidat populiste, anti-avortement, pro-torture, qui a polarisé les débats par son style autant que par les innombrables déclarations qu'il avait faites par le passé, déclarations racistes, sexistes ou homophobes. Sa victoire, ce n'est encore qu'un premier tour, rappelons-le. Cette performance, en tout cas, de Jair Bolsonaro, prévient le Washington Post, c'est un coup d'accélérateur impressionnant pour un mouvement mondial et encore bourgeonnant qui voit des dirigeants nationalistes de droite s'emparer des postes politiques les plus importants aux États-Unis, en Europe et aux Philippines, à présent peut-être au Brésil. Dans les colonnes du Guardian à Londres, on lit que les 2 prochaines semaines vont être folles au Brésil. Le pays va se diviser plus profondément encore. Les 2 camps vont s'envoyer des monceaux de boue à la figure, analyse une politologue interrogée par le Guardian. Mais peut-on encore vraiment tout miser sur le rejet du personnage Bolsonaro? Le journal argentin Perfil en doute sérieusement. Il refuse de croire que 46% des Brésiliens adhèrent nécessairement à l'extrémisme de droite porté par le favori de la présidentielle, mais il constate tout de même, ce journal argentin, que tous les débordements, la partie bestiale de Bolsonaro et de son discours sont comme dilués en une série de relativisations et de justifications plus ou moins conscientes chez les électeurs qui se sont laissés convaincre finalement que les accusations de machisme ou d'homophobie contre Jair Bolsonaro étaient sans doute exagérées, qu'il y avait eu une campagne systématique des grands médias contre lui. Le risque, c'est que ce sentiment-là ne continue à gagner encore du terrain ces 2 prochaines semaines.
Et loin du Brésil, Camille, l'actualité internationale nous emmène également en Chine, où l'on a retrouvé la trace du président d'Interpol, porté disparu à Lyon depuis fin septembre.
Il s'appelle Meng Hongwei, il était à la tête de l'Assemblée Générale de cette agence qui fédère les polices du globe, et il a donc été arrêté, placé en détention dès son arrivée dans son pays, la Chine, à la fin du mois dernier. Donc les autorités de Pékin, citées par le South China Morning Post, ont donc mis fin hier à l'inquiétant mystère qui entourait le sort de cet homme très haut placé dans l'appareil sécuritaire chinois, dont il occupait aussi les fonctions de vice-ministre. Meng Hongwei est donc bien entre les mains de la justice chinoise qui mène contre lui une enquête criminelle. Le mystère est donc levé, mais nous dit le poste depuis Hong Kong, cela confirme les inquiétudes de la femme de Meng pour qui la vie de son époux est en danger. Elle raconte que le dernier signe de vie qu'elle a reçu de lui, c'était un SMS avec une seule image, un émoticône couteau. Le New York Times aussi s'intéresse à cette affaire. Il prend acte d'une autre clarification, la démission de Meng Hongwei reçue par Interpol ce week-end. Une démission sous la contrainte, en tout cas sous la supervision, nous dit le Times, des agents de la Commission Centrale d'Inspection pour la Discipline créée en Chine l'an dernier et qui sert au Parti communiste de chien de garde chargé de traquer la corruption mais aussi la déloyauté politique dans les hautes sphères du régime. Ce qui arrive aujourd'hui à Meng, c'est étonne le correspondant du Washington New York Times, à Pékin, et car la purge touche cette fois un pion majeur dans la politique de Xi Jinping pour affirmer la place et l'influence de la Chine au sein des grandes institutions mondiales. Sa démission et sa détention fragilisent donc le président chinois. On voit mal comment une autre organisation internationale désormais pourrait accepter de placer un Chinois à sa tête quand on sait qu'il peut disparaître à tout moment pour réapparaître quelques jours plus tard dans les geôles de son pays.
Merci beaucoup Camille Magnard. Il est 7h42 sur France Culture.